simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Grégor. Chaque semaine, sur l'Écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, notre émission ce soir sera consacrée à Bure au début, puisqu'on va vous passer quelque chose de Radio Canu de Lyon concernant le procès en appel à Nancy des deux Christians dans la lutte de Bure. Donc, et puis après, on aura des gilets jaunes de Toulouse en direct. Allez, on y va donc pour Bure.
Pour s'en débarrasser, il faudrait qu'on les enterre. Personne ne garantit d'être en misant ce que ça va faire. Il est temps d'arrêter la folie nucléaire. La folie nucléaire.
La folie du nucléaire. C'est contre elle et pour condamner la répression autour de Bure que ce 10 janvier, dans un froid typiquement lorrain, une centaine de personnes s'est rassemblée à la cour d'appel de Nancy pour soutenir Christian et Christian, deux inculpés de la lutte contre le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Ne pas laisser faire la répression, comme le crient sur la place les Bure à l'heure à propos de cette affaire qui date de l'été 2016. En effet, cet été-là, l'ANDRA, l'agence de gestion des déchets radioactifs, construit un mur autour du bois Le Jus à Bure pour éloigner les habitants et militants qui l'occupent afin de retarder les travaux du chantier. Ce bois sera le point de départ de ce désastreux projet qui vise à enterrer à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans des centaines de kilomètres de galeries, les pires déchets nucléaires radioactifs pour des milliers d'années.
Juste là, cette cabane qui te tend les bras, on croirait presque qu'elle a toujours été là. Comme tu vois, pas besoin de bétonner, simplement de savoir faire preuve de patience, de persévérance et d'imagination.
L'imagination, l'ANDRA en a visiblement lorsqu'elle imagine qu'un mur suffit à défendre un bois. Elle qui prétend gérer en toute sécurité les déchets nucléaires pour des dizaines de milliers d'années, a manqué d'audace sur ce coup-là. Car en effet, à l'aide d'une simple corde, les 4 km s'écroulent lors d'une mobilisation, tel un château de cartes.
Mais déjà le soleil se lève, fin de la trêve, nous voilà rattrapés par la réalité, il faut aller pisser.
Pour l'État et l'ANDRA, cet acte de destruction ne doit pas rester impuni. Et c'est ainsi que deux militants historiques, Christian et Christian, tous deux retraités, se retrouvent poursuivis par l'ANDRA. Le tribunal de Bar-le-Duc, en première instance, condamnera les deux hommes à 3000 euros d'amende et 4 mois de prison avec sursis. Christian nie les faits. Quelle est la base des accusations? Une photo où le maire d'un village aurait reconnu Christian. Écoutons ce qu'il en dit dans la déclaration qu'il a fait au tribunal.
Voici. À Bar-le-Duc, au tribunal correctionnel, j'ai été relaxé pour mon refus de prélèvement ADN et condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 3000 euros de dommages pour participation active à la chute des blocs de béton, sans oublier 600 euros plus 127 euros de procédure. J'ai fait appel de ce jugement car, comme je l'ai déclaré au correctionnel, je ne me reconnais pas comme étant l'individu numéro 1 de la fiche de diffusion A7. plus j'observe cette photo, plus je sais ne pas reconnaître ce bob, ce t-shirt, ce short, ces chaussures. Je sais que depuis plus de 40 ans, je ne porte rien au poignet. Quand je regarde cette mauvaise photo, à la loupe, il me semble remarquer des tatouages sur les mollets. Je peux vous montrer que je n'ai jamais eu d'autres tatouages que les trois points de ma récente radiothérapie. À ce sujet, j'ai produit à l'audience pour expliquer mon incapacité en cette période une copie de mon compte-rendu d'hospitalisation que le président révéla publiquement et transforma dans le jugement en opération de la vésicule biliaire alors qu'il s'agissait d'une prostatotectomie totale. Je ne comprends pas comment M. Bradfer, maire de mon village, a pu m'identifier à partir de cette fiche de diffusion que le major Humbert lui a présentée. Peut-être lui a-t-on montré la photo de la pièce A10 où une personne me ressemble, mais je ne me connais pas des avant-bras si forts, une poitrine si développée et des cheveux si courts pour une barbe si fournie. Et si j'étais cette personne, elle ne correspondrait pas à celle de la fiche A7. Le procureur Glady de Bar-le-Duc m'a chargé sur cette seule identification. Et je n'ai pas compris que le tribunal correctionnel l'ait suivi et m'ait condamné en n'ayant aucun doute sur cet individu numéro 1, alors que je sais que je ne suis pas cet individu numéro 1. Bien sûr, j'ai reconnu ma présence dans le bois Le Jus. J'en ai longuement expliqué mes et nos motivations à être dans ce bois. Nous n'y sommes pas entrés par effraction, le portail était ouvert et l'accès libre. La veille, vigiles et gendarmes l'avaient déserté. Par nos actions juridiques, la justice a reconnu dans un premier temps le défrichement illégal sur plus de 9 km de pourtour, puis dans un deuxième temps, la construction illégale d'un mur dépassant souvent les 2 mètres. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas comment le préfet a pu envoyer des gendarmes protéger pendant plusieurs semaines la construction de ce mur sans en avoir vérifié l'autorisation. C'est dans ce contexte que s'est passé le tir à la corde et la poussée des palanquières. Et c'est aussi parce que l'attribution du bois Le Jus à l'Andra, contestée en justice par des habitants de Mandre, traîne, traîne et traîne encore. Pourtant, nos condamnations, nos emprisonnements, nos amendes, nos interdictions de territoire prennent naissance ici. Qu'en serait-il si la justice reconnaissait aussi illégale cette attribution du bois Le Jus à l'Andra et en venait à rendre ce bois aux habitants de Mandre? L'Andra serait bien embêté avec son projet CIGEO, et qu'en serait-il des défenseurs de la forêt déjà victimes de condamnation?
Les avocats des deux Christians ont demandé la nullité des peines, tandis que ceux des parties civiles ont demandé le maintien des peines. Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars.
Oui, bonsoir. Eh bien, maintenant, comme on vous l'a dit, on va vous parler un petit peu du mouvement des Gilets jaunes avec ce qui s'est passé dans l'acte 10 de ce week-end, de samedi, donc à Toulouse, puisque Toulouse a été la ville où il y a eu le plus de monde, plus de 10 000 personnes dans les rues, plus de 10 000 gilets jaunes, ça ne s'était jamais vu. Alors je crois que nous avons des gens, des gilets jaunes, j'espère, de Toulouse, au téléphone. Allô ?
Oui, salut Denis. Alors déjà, première chose rectificative, puisque là en face de moi, les camarades ont rousse pété, on parle de 15 000 personnes à Toulouse ce week-end, qui est...
Non mais j'ai donné les chiffres de la police.
Voilà, qui est, oui comme tu l'as dit, la manifestation la plus importante au cours de ce week-end en France, et puis l'aboutissement et la marque d'un mouvement en Haute-Garonne et à Toulouse qui ne faiblit pas, puisqu'il y a encore des ronds-points qui sont occupés, et même des tentatives de structuration du mouvement, puisque dimanche, il y avait une assemblée générale. Mais de tout ça, on va parler avec toi et avec nos camarades. Donc on a trois camarades qui sont investis dans le mouvement des Gilets jaunes, Teresa, Jules et Tommy. Déjà, peut-être la première question qu'on pourrait leur poser, c'est comment ils expliquent que le mouvement fonctionne aussi bien, bien et, ouais. Et je pense que c'est la question que tu voulais leur poser aussi, ouais. Comment ça se fait qu'il y a eu 15 000 personnes et comment ça se fait que ça tient encore en Haute-Garonne alors que dans d'autres villes et dans d'autres régions, peut-être qu'il y a un tassement, enfin quelque chose comme ça. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Jules.
Je sais pas si ça marche si bien que ça. Ça ne faiblit pas en tout cas, mais à savoir. Il y a plusieurs raisons. De toute façon, il n'y aura pas une raison qui fera que la mayonnaise de la Brésilie. C'est, entre autres choses, il y a cette habitude de Toulouse d'aller vampiriser toute la région, qui continue, en tout cas, qui se voit encore le samedi, puisqu'il y a peut-être dans les mailles du samedi pour savoir qu'il y a des gens qui gueulent Minervois, ou Cahors, ou etc., pour se retrouver entre eux, vu que tout le monde est masqué. Donc ça veut dire que c'est aussi des manifestations régionales, et que même s'il y a des manifestations ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres préfectures, quoi, de la région ou sous-préfecture, il y a quand même beaucoup de monde qui descend à Toulouse. D'autre part, je sais pas moi, pourquoi ça a pris à Toulouse? Pourquoi ça a pris? Est-ce que quelqu'un a une suggestion?
On se l'explique pas forcément. C'est vrai que dès le début, il y a eu pas mal de ronds-points qui ont été pris, pas mal de déterminations à Toulouse. Mais alors... sans explication sur...
Et toi, tu as une idée?
Non, oui, pour le coup, je pense que ce que disait Jules, en effet, c'est que Toulouse a cette spécificité, qu'en effet, c'est une grosse ville aussi qui attire beaucoup, beaucoup, tout le territoire qui est autour, toutes les campagnes, et t'as sûrement beaucoup joué. Après, pourquoi c'est particulièrement fort, là, à ce moment-là, à Toulouse? C'est vrai qu'il n'y a pas de... Comme plein de choses dans ce mouvement, il y a plein de choses qu'on ne s'explique pas et qu'on n'arrive pas à expliquer.
Il y a une grosse teneur au niveau des revendications. Il y a eu assez vite une grosse teneur sociale. En particulier après la manif du 28, quoi, à partir de la manif du 1er décembre, c'est parti sur des choses sociales. Après, il y a une vieille tradition ici, un peu gauchisto-alterno, qui est en ce moment en train de sauter sur le mouvement. Je ne sais pas si ce qui peut. À mon avis, ce n'est pas ce qui peut arriver de meilleur au mouvement. Mais il y a ça aussi. Il y a aussi peut-être toute cette banlieue, parce que la banlieue du Grand Toulouse, moi je vous la mets à 40-50 km quoi, autour de l'île Jourdain, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, c'est vrai sociologiquement, il y a beaucoup de ces gens qui se sont pas mal découverts entre voisins sur les ronds-points. Je sais, tous les médias disent ça, mais ça c'est une réalité. Ça, moi partout où j'ai été sur des ronds-points, j'ai vu des gens qui ne se fréquentaient pas quelques semaines avant et qui se sont mis à se fréquenter. Donc il y a aussi ce tissu urbain avec cette espèce d'immonde banlieue. C'est très moche, la banlieue toulousaine, il faut le savoir. Mais du coup, il n'y a rien d'autre de plus intéressant à faire que d'occuper un rond-point, effectivement.
Tu as aussi une tradition politique. Hein, quelques vieux fonds de Midi Rouge. Hein, on avait une camarade... hier, qui nous parlait de l'Assemblée Générale de Carmo ou de ces zones-là, où à Carmo, tu as 300 à 500 personnes qui se rassemblent en Assemblée Générale, quoi. Donc tu as aussi des vieux mouvements de fond, et puis évidemment, la ruralité ici, la bagnole, l'essence et tout ça, ça cause directement aux gens, quoi. Voilà. Hein.
Ouais, mais je sais pas si c'est la révolte des vignerons de 1907 qui recommence.
Non, pas, on disait aussi que il y avait aussi des formes intéressantes d'organisation, c'est-à-dire que dimanche il y a eu une assemblée générale. C'était la deuxième, c'est ça?
Non,
c'est la première.
Quatrième.
La quatrième. Hein. Enfin,
t'es pessimiste.
Et,
là.
Donc ça c'est quand même aussi, c'est aussi des trucs qui sont intéressants, quoi. Bon, comment elles se sont provoquées et créées ces assemblées générales?
Comment elles se sont provoquées? Assez logiquement, il y a un besoin dans ce genre de moment qui se fait de s'organiser collectivement. Donc logiquement, vu comment le mouvement est parti assez fort, il y a eu cette AG qui est la première arrivée après le 1er décembre, non? C'est ça? Où du coup, je crois, si je me trompe pas, il y a au moins eu 600-800 personnes qui se sont rassemblées. Là, c'est cette envie de s'organiser de manière horizontale, collectivement, c'est né de là. Et oui.
Et ça a pris de la force un peu quand les ronds-points ont commencé à être délogés, parce qu'une espèce d'assemblée générale, elle existait plus ou moins depuis le début, dans le sens, c'était pas vraiment une assemblée générale, mais par contre plutôt des représentants de chaque rond-point qui se rencontraient pour essayer de se coordonner sur des actions ou autres, ou au moins se tenir au courant de ce qui se passait, mais qui étaient assez peu rejoints par les Gilets jaunes qui, eux, restaient sur leurs ronds-points. Il y avait quelques petits représentants comme ça. Et c'est vraiment avec les ronds-points qui se font expulser que l'Assemblée générale prend de la force et prend une vraie consistance, quoi.
D'accord.
Je crois aussi que l'on peut dire sur la popularité et le monde qu'il y a à Toulouse, même lors des manifestations de ces journées de samedi, c'est que assez rapidement, dès le 1er décembre, il s'est passé des choses, notamment la conflictualité à Toulouse, où les gens, bah, il faut quand même le dire, moi je le dis, hein, ils ont eu le plaisir d'être ensemble, le plaisir de faire chier le monde, et le plaisir de s'affronter et d'exprimer leur colère, quoi.
Mais pas que, parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, j'y repensé par rapport au disait, il y a un fond historique. Toulouse, c'est une ville où historiquement il y a eu des émeutes jusqu'à la fin des années 80. Et là, moi ce que j'y retrouve, parce que je retrouve, je suis pas tout jeune, et je retrouve beaucoup de copains que des fois on s'était pas vu depuis 15 ou 20 ans dans ces manifs, et c'est pas pour rien. C'est effectivement la conflictualité qui les fait descendre, même si chacun y participe à la mesure de ses moyens. Ce que je veux dire, c'est que ça fait des années que c'est une ville qui est Airbnbisée, si ça se comprend, qui est repeinte, qui est domptée. Ça fait des années que lors des différents mouvements, syndicaux ou pas syndicaux, les manifs sont interdites dans le centre-ville, donc ça devient le jeu du chat et la souris, genre on va passer, on va quand même arriver à foutre un peu la merde au centre-ville. Et là, ça s'est fait tout naturellement. Et peut-être que si une bande de flics un peu dépassés n'avaient pas tiré dans le tas rue Bayard le 1er décembre, peut-être ça serait pas parti pour 5 heures d'émeute ensuite, mais du coup, ça devient le rendez-vous. Donc avec toutes les limites que ça peut avoir, quand ça termine par être ritualisé, et s'il n'y a plus que ça, ça ne va pas aller du tout loin. Mais c'est aussi, il y a aussi ce plaisir et cette vengeance des gens qui habitent la ville ou qui habitent autour de récupérer la ville. Ça, alors là, pour moi, c'est clair.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, il y a eu des arrestations à Toulouse. Comment que ça s'est passé, la solidarité par rapport à cette répression ?
Ben là, il y a Teresa qui va nous en parler, puisque parmi ses nombreuses activités, Teresa s'occupe aussi, ça c'est une des caractéristiques qu'on aura l'occasion de développer. Assez rapidement, tout de suite, les camarades toulousains se sont organisés pour affronter la répression, et il y a un collectif d'autodéfense juridique qui existait préalablement, et ben, Teresa enfin, c'est pas que ça, mais elle est dedans jusqu'au cou. Et voilà, ouais, tu peux, vas-y, je te laisse la parole, Thérèse.
Ouais, ouais. Alors, en effet, il y avait un collectif d'autodéfense juridique qui préexistait, ce qui a fait qu'au début, tout de suite, ce collectif-là est venu aux différentes comparutions immédiates, essayer de faire un peu de lien entre les inculpés. C'est ce qui est plus récent, par contre, et peut-être plus intéressant, c'est la défense collective, une espèce de commission défense collective qui a été créée beaucoup plus récemment. Ça fait à peine une semaine, deux semaines à peu près que ça a été lancé. Donc plutôt à l'initiative de la commission Action, qui est une des commissions, mais qui est quand même la commission un peu la plus dynamique sur Toulouse. Donc avec une sous-commission qui rassemble beaucoup plus de monde pour le coup, et qui a décidé de vraiment prendre en main à l'intérieur du mouvement cette défense collective, donc on dit de la rue au tribunal et même en prison, parce qu'il y en a beaucoup qui partent en prison quand même, et de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui, donc j'ai été particulièrement aux comparutions immédiates aujourd'hui. J'ai vu 5 passages, 5 fermes avec mandat de dépôt qui ont été décernées immédiatement. Alors des fois, 6 mois avec 4 mois de sursis et maintien en détention pour une simple participation à un groupement, blablabla. On a aussi un 30 mois, donc 18 mois de sursis pour quelqu'un qui aurait utilisé un laser contre un hélicoptère. Et voilà,
10 mois. Hélicoptère se porte comme un charme.
Tu m'étonnes. D'accord.
Et donc, voilà, après, il y a des tentatives de récolter un peu de l'argent, parce que pour tous les incarcérés, et pas que, aussi, il y a énormément de
De frais, ouais, évidemment, de les frais de justice. Et puis en plus, oui, il n'y a pas que les peines, il y a aussi les avocats qu'il faut certainement rétribuer.
Exactement.
Et ça, c'est aussi une des particularités du mouvement, hein, et de comment dire, la suite et la production aussi de cette Assemblée Générale, c'est que assez rapidement, les gens se sont divisés les tâches et il y a eu cette organisation sous forme de commission qui permet justement d'éviter, on va dire,
le verrouillage.
La spécialisation, le verrouillage.
Parce que les assemblées sont assez verrouillées quand même.
Et question, est-ce qu'il y a eu d'autres des liens avec d'autres types de mouvements? Par exemple, nous à Reims, on a parlé de manière assez triste de la démonstration pitoyable des syndicats. Est-ce qu'ici, il y a eu des liens? Est-ce qu'il y a eu du mouvement lycéen, etc.?
Ah oui.
Alors, sur les syndicalistes d'abord.
Alors, sur les syndicalistes, il y a des liens, alors des petits liens. Il y a des tentatives qui sont faites aujourd'hui par certains gilets jaunes d'essayer d'aller chercher des syndicats. Au début, bon, il y a quand même une grosse défiance des syndicats dans le mouvement gilets jaunes, mais voilà, certains essayent de les ramener pour lancer la grève, notamment il y a une grève qui a été appelée le 4. 5, 6, il me semble, à Toulouse. Ils veulent pousser les syndicats au moins poser une journée de préavis ou des appels à la grève, même en privé, etc.
6 janvier prochain.
Il y a aussi, après, quelques appels, quelques grèves, une en particulier grève à l'appel des syndicats qui a été rejoint par les gilets jaunes Oui, de la grève de... Bon, bref.
De l'hôpital
du CHU? Non, du Carrefour. Oui, il y a aussi l'hôpital, il y a aussi le Carrefour.
Ah oui, il y a le Carrefour, ouais. Mais...
Un certain nombre de grèves. Donc, les liens en sont là pour le moment.
Et dans la rue, il y a deux fois les syndicats, les syndicats, la CGT Sud, on va dire, qui sont les coupables, qui ont appelé à manifester, mais alors pas au même endroit que les Gilets jaunes, mais un samedi pareil, donc les deux manifs sont rejoints. Ce qui fait que les quelques centaines de syndicalistes ont été rejoints par les quelques dizaines de milliers de gilets jaunes.
Oui.
Voilà. Ça, c'est le côté... Les syndicats, ils sont à la ramasse pour l'instant. Voilà.
D'accord. Et après, les syndicats aussi, ils ont ce qui a quand même un peu dégoûté pas mal de gens. Il y avait un appel à la grève des routiers qu'ils ont retiré au dernier moment.
Oui, tout à fait. Je m'en souviens. Ouais.
Ça a un peu échauffé les gens. Et après, donc on en reparlera peut-être au moment où on parlera du mouvement lycéen, mais les syndicats, ils sont bien présentés sur le mouvement lycéen, en mode on va venir dans la rue pour protéger nos lycéens, et ça a bien terme au mouvement. On pourra le développer un peu sur en parlant du mouvement lycéen.
Et puis, du coup, c'est vraiment à ce niveau-là de Toulouse, à l'image de tout ce qui se passe dans les autres endroits, mais c'est vrai que ce mouvement gilet jaune, dès le début, il s'est bien prononcé, enfin, il voyait vraiment bien les limites de ce que pouvait porter le syndicalisme, et en effet, avait bien conscience qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait déboucher de ça, parce que d'une, déjà, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus la force de déclencher quoi que ce soit, ou de pouvoir créer la moindre chose au niveau du rapport de force. Et en plus, ils en ont vraiment pas l'envie, parce que comme l'ont rappelé les camarades à l'instant, là pour l'instant, depuis le début, les syndicats se sont surtout manifestés par une envie d'encadrer et de limiter, à Toulouse comme ailleurs.
Oui, tout à fait.
Après. Et,
oui, vas-y.
Je sais pas, je voulais dire deux mots sur les lycéens.
Oui, tout à fait. C'est parce ce que j'allais te
demander. C'est parti, mais d'une manière très 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 spontanée vers. Début décembre, quoi, dans la première semaine de décembre, et ça a tenu 15 jours de manif ici à Toulouse, où ça a été un mouvement essentiellement spontané, quoi, où les membres ont débrayé, mais bon, protestant contre Parcoursup, protestant contre la réforme des lycées, mais moi je pense, à mon avis, il y a beaucoup de prétextes là-dedans, c'est aussi une manière de participer à la messe générale. Il faut voir que cette ville de Toulouse, qui était devenue tellement invivable, à partir du 1er décembre, comment les gens se sont mis à se parler entre eux, comment, à partir du moment où les lycéens ont débrayé, la préfecture a demandé à la régie de transport en commun de bloquer les transports dans la journée, ce qui fait qu'une grosse ville quand même comme Toulouse, où il n'y a plus de bus, plus de métro, ça vous pose une ambiance. Et surtout, ils avaient peur que les mômes, peut-être des quartiers, descendent dans la ville. Je ne sais pas si c'était ça ou si c'est autre chose, ou si c'est pour simplement éviter que les manifestants ne soient plus mobiles que normal. Et voilà, et comme le disait Teresa, au bout de... Parce qu'ils ont quand même bien morflé, les flics n'ont pas hésité à tirer dans le tas, à aller chercher des lycéens, pour certains, chez eux à 6 heures du mat, etc. Donc, à un moment donné, il y a eu de plus en plus d'adultes, avec tous les guillemets que je peux y mettre, qui sont descendus dans la rue pour être aux côtés des membres, quoi, qui partent pas au massacre. Et en fait, ça a donné une espèce ici de récupération, en particulier des syndicats enseignants, qui étaient assez tristes. Je vois pas autre mot que triste.
D'accord.
Ouais, ce qu'il faut se dire, en tout cas, c'est qu'il y a eu une grosse répression aussi sur les lycéens, à la fois de la police dans la rue, avec des cons, enfin, on est allé chercher, etc., mais aussi une grosse répression de leur propre institution, quoi. Les lycées étaient déterminés, les deux gros lycées à Rennes et Déodat qui ont débrayé, étaient déterminés, les professeurs, à ce que ça ne continue pas, et il y a eu des menaces sur les élèves, enfin bon, ça a été, ils ont bien subi la répression aussi.
Oui, même les parents d'élèves se sont manifestés, ont même été débloqués physiquement un des derniers jours de blocage à Déodat, par exemple, aux arènes. Par exemple, et également la police a demandé à plusieurs lycées de fournir aussi les noms des personnes qu'ils estimaient être à l'origine des blocages dans les lycées, des leaders, etc., etc.
D'accord.
Et après, il y a des membres qui doivent passer un procès parce qu'il y a quand même eu le lycée Saint-Exupéry à Blagnac qui a été légèrement enflammé ou des choses comme ça, quoi. Ça a été quand même.
Il y a eu l'instruction qui a été ouverte.
Sur voilà. Ça a été sponte et plutôt dur. Ouais. Mais c'était assez joyeux, hein. Bah, comme les magnificènes, quoi.
Oui. Et depuis la rentrée, il se passe pas grand-chose ou il se passe encore des choses?
De ce qu'on a entendu, il y a quelques lycéens qui aimeraient bien que ça bouge un peu, mais que c'est un peu dur parce que justement, il y en a beaucoup qui ont un peu trop subi la répression.
Grosse peur de la répression, a priori, hein, parce que ça a été vraiment. Enfin, ils ont pris vraiment quelque chose dans la tête, hein, avant les vacances de Noël.
Ouais, c'est ce qui s'est passé aussi en région parisienne, en particulier dans le 93.
D'où peut-être la banderole de samedi dernier où c'était les jeunes avec les gilets jaunes, etc. quoi. C'est, puisque c'est ça sera l'exutoire du samedi.
Alors peut-être. Justement, parlez-nous de l'expression dans les manifestations à Toulouse. Justement, tu parles de banderole, parce que nous, sur Reims, déjà, il n'y a pas grand monde. Ils étaient à peine 300 ce samedi et c'était pas joyeux. Est-ce que tu peux un peu nous donner un petit peu le contenu, quoi, des banderoles, de l'expression, quoi?
C'est un bordel. C'est un bordel innommable.
Non, ce qu'on peut remarquer, c'est que jusque-là, il n'y avait pas énormément de banderoles. Pas énormément d'expression. Cette dernière manifestation à Toulouse a été un peu spécifique en la matière parce qu'il y avait plus de banderoles et surtout beaucoup de graphes, beaucoup de choses écrites sur les murs. Voilà quoi.
Ouais. C'était assez poétique d'ailleurs.
On peut noter que ça fait deux manifs, que ça a été le retour des banderoles renforcées justement pour s'organiser, pour se défendre face aux charges des stars et de la BAC. Et ça fonctionne toujours aussi bien et c'est toujours assez utile.
Ouais, le contenu, on va développer. Je donne quand même pour les auditeurs et moi un petit exemple de ce que ça peut vouloir dire, la répression ici à Toulouse. C'est des groupes de motards, 4, 6, bécanes, avec un mec habillé tout en noir derrière et un brassard police qui font.
C'est des baqueux.
Ouais, voilà, mais qui tournent dans la ville pour ramasser et embarquer les gens, quoi.
Voilà, ça, pour leur balancer des grenades dans la poire, oui.
Aussi. Et ça te crée une ambiance, hein, quand même. Hein, ça,
plus
ça,
les hélico, plus les blindés, plus... voilà, ça fait depuis mi-décembre qu'on a droit au canon en haut. Et d'où cette idée... mais il y a des fois une intelligence spontanée de la foule. Je vais vous raconter une manif qui partait de la place Esquirol. Alors, je pense que les gens de Rennes ne connaissent pas, donc... qui part d'une grande place où on est bloqué par le canon en haut, les blindés, les quarts de flics. Donc c'est clair, ils veulent nous repousser vers la rive gauche, qui est un quartier qui est plus facilement contrôlable, on va dire, et où s'il y a des dégâts, c'est pas grave, c'est des crevards plus. Et ben, la manif s'est barrée par petits bouts dans des petites rues. Et finalement, c'est dissoute. Non, c'est étendu dans tout le centre-ville, dans tout le centre commercial, avec les gens qui disaient, ben, essaie de la bouger maintenant ta charrue, en pensant au canon en haut et tout ça. Et ça, ça a été du spont aussi. Ça a été très drôle. Et ça, c'est des choses qui sont... Après, il y a beaucoup de... Il y a une espèce de rancune que les gens ont envers le président de la République et le ministre de l'Intérieur,
qui se manifeste de
manière assez évidente, et peut-être aussi vis-à-vis de notre maire, qui dit que des conneries depuis deux mois, et qui est quelqu'un d'assez médiocre, il faut dire.
Ah oui, Moudin, qu'il a été extraordinaire. Hein. C'est le maire de Toulouse. Il a témoigné sur le fait qu'il s'était baladé dans la manif hein, sur une moto. Il était venu incognito pour voir un peu pourquoi ses administrés étaient aussi enragés de manière générale, puisque Jules l'a dit, la manif elle se passe au centre-ville. D'ailleurs, c'est la jérémiade absolue des petits commerçants qui disent qu'ils vont crever, quoi, parce qu'ils sont obligés de fermer tous les jours, mais au moins le message et le positionnement il est clair, hein. Toulouse c'est un centre-ville où il n'y a que des boutiques, quoi, oui, hein, vraiment. À l'image de tous les centres-villes. Ici là tu as une opposition quelque peu entre, on va dire, le centre-ville historique, tel qu'on peut l'imaginer, d'une ville du sud, avec ses beaux bâtiments, ses pierres, etc., ses arcades, et puis des putains de magasins partout, quoi. Donc c'est clair que quand tu te balades là-dedans et que t'as pas de sous pour consommer, tu te prends la marchandise dans la gueule et la frustration tous les jours. Donc là, petit commerçant. Donc Mona qui s'est baladé dans parmi ses administrés et il n'a pas compris pourquoi les gens étaient en colère. Et par contre, ce qu'il a vu, parce qu'il a l'œil acéré, c'est qu'il a vu de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche côte à côte pour...
C'est bien connu.
Bien sûr, en plus, il a un œil très avisé pour déterminer qui est d'ultra-droite et d'ultra-gauche. Enfin bon, c'est pour la blague, hein, mais bon, ça te donne bien le niveau du personnage. Mais je pense que ce que tu voulais savoir, c'était aussi quelque part qu'est-ce qu'il y avait dans les revendications, dans
c'est
le
ça, c'est ça,
etc. Est-ce que le RIC, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, qui est un petit peu l'espèce de truc que on nous sort là pour ramener tout le monde à la niche, et puis par rapport au débat, tout ça, est-ce qu'il y a eu des prises de position apparentes, est-ce que ça en cause de ça
Alors il y en a qui sont un peu déterminés à en parler. À chaque commission, il y a quelques personnes qui veulent absolument te parler du RIC, mais dans l'ensemble, c'est plutôt en baisse. Par exemple, à la commission Action, à chaque fois qu'il y a toujours un type qui vient parler du RIC, tout le monde lui dit c'est pas une action, on n'en parle pas ici, quoi. Après, de manière générale, plutôt en baisse, ouais.
On se rend compte
que c'est un peu pour nous faire rentrer chez nous.
On peut dire sur la question du RIC, oui, là, globalement, beaucoup de gens s'en foutent, ou du moins dans les endroits où ça s'organise particulièrement, on en entend quand même de moins en moins parler. Même si forcément en manif, on voit qu'il y a quelques personnes sur en effet les pancartes, quelques trucs comme ça. Mais globalement, le discours, il est quand même moins présent qu'il y a quelques semaines quand c'était un petit peu passé pour la soi-disant idée géniale qui pouvait présenter une sortie de crise. Et ça n'a pas du tout convenu au mouvement. Hein. Les gens pas, voilà, voulaient pas sortir du truc et voulaient rester dans le mouvement.
Et quant au grand débat, moi j'avais envie de dire que j'ai l'impression, et en plus pour m'être baladé un peu dans les campagnes environnantes, que s'il y a un mélange d'indifférence et de mépris par rapport à ce débat. Et surtout une espèce de colère il paraît que les maires, c'est le seul élu qui est encore respecté. Bon, on a parlé du maire de Toulouse qui est particulièrement gratiné, mais un peu partout, moi j'ai vu des graffitis, des affiches disant nos élus sont des vendus, ou on discute pas avec un flingue sur la tempe, ou etc., etc. Donc, je sais pas, moi, on a un président de la République qui se prend pour Bruce Springsteen ou pour Michelin, je sais pas, puisqu'il fait des concerts de 6 heures, mais ça n'a pas l'air d'émouvoir la population. Ça émeut peut-être quelques maires qui s'y rendent, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de rentrer en ligne de compte. Et quant à ce qui concerne le mélange de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite qu'on trouve dans nos rues, il est évident qu'il y a des gens qui sont absolument pas des camarades, il est évident qu'il y a des... je sais pas moi, des identitaires, des ligues du Sud, des chrétiennes de ce genre. Pour l'instant, c'est un peu eux les chrétiennes utiles du mouvement. C'est-à-dire que s'ils y sont, c'est pas eux qui tiennent le haut du pavé. Ailleurs, oui, c'est possible. Mais pas dans ce coin-là.
D'accord.
Et après, dans d'autres coins autour de Toulouse, oui. Il y a des bleds que je ne nommerai pas, mais dans lesquels, effectivement, ils tiennent beaucoup plus le haut du pavé. Mais la question identitaire ou quoi, je sais pas. Par exemple, il paraît qu'en Bretagne, c'est compliqué parce qu'il y a, des restes de bonnets rouges, etc. Ici, bon, ben, ouais, il y a quelques drapeaux occitans ou de supporters du TFC, voilà.
Ouais. Globalement, ils se sont fait bananer, ils n'ont pas existé. Juste pour l'exemple, là, par exemple, la manif de samedi, il y a un ou deux gars qui trimballaient leur drapeau de Civitas. Ils se sont fait dégager avec quelques tartes et ils sont bougés, ils sont pas revenus. Hein. Non, globalement, on les voit très peu, ils n'ont pas du tout réussi à exister dans ce mouvement. En plus, pour le coup, leurs thématiques, elles n'ont pas du tout été reprises. Et à partir du moment où c'était vraiment une centralité sur les questions sociales, les conditions de vie, les conditions de travail, etc., ils n'avaient plus du tout l'espace pour placer leur merde. Hein. Donc franchement, on les a peu vus et peu de fois où ils apparaissent, ils se font dégager. Hein.
Et la thématique qui apparaît comme une espèce de, comment dire, de minimum syndical, quoi, c'est vraiment une histoire de riches contre les pauvres. Ou de pauvres contre les riches. Ouais. Donc, finalement.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que les assemblées générales étaient quand même bien structurées, bien encadrées. Bien verrouillé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, voir comment que ça se passe? Est-ce qu'il y a des leaders qui sont apparus? Il y en apparaît toujours, hein. Mais comment que ça se passe au niveau justement de la représentation?
Du coup, pour répondre, bon, c'est toujours un petit peu délicat parce que du coup, c'est pas pour donner l'impression de cracher dans la soupe, alors que c'est des choses qui s'organisent collectivement, que ça fait partie du mouvement, etc. Mais oui, il y a certaines assemblées, on peut considérer qu'elles sont un peu verrouillées, et qu'elles ont tendance à reproduire des schémas qui sont pas satisfaisants et qui font rapidement que les assemblées deviennent des espèces d'usines à gaz, notamment pour la grande assemblée générale. Après, pour le dire rapide, parce que voilà, bon, c'est typiquement, enfin pour ceux qui ont vu ce genre d'assemblée qui était très inutile, c'est des assemblées où on vote tout et n'importe quoi en permanence, et surtout des grands principes, et où on s'organise assez peu concrètement. Par exemple, les dernières en date, on a trop peu parlé de la reprise des blocages de rond-points, trop peu parlé de stratégie globale, et trop parlé dans l'incantatoire. Trop de choses comme ça. C'est pour ça aussi que, par exemple, beaucoup plus de choses s'organisent dans la commission action, et la commission action, par bien des aspects, est beaucoup plus motivante que l'Assemblée générale en tant que telle. Même si, du coup, la commission action ne peut pas être le lieu d'organisation en tant que telle, vu qu'il n'y a pas vraiment de discussion collective et compagnie.
Mais qui rassemble 150-200 personnes, quoi, la commission action.
Oui, c'est quand même pas... Ouais, c'est important.
Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme type d'action d'organiser, hein? Tu peux donner un exemple?
Oh ben les péages, les blocages de péages d'autoroute, ça c'était la dernière, dimanche dernier, ouais. Par exemple, qui a quand même tenu toute la nuit.
Le blocage de la raffinerie, après il y a aussi d'autres actions qui ne s'organisent pas forcément dans la commission action, mais par des petits groupes de gilets jaunes qui, à quelques-uns, vont décider d'une action, vont venir en parler à la commission action ou ailleurs, et dans tous les cas, elles sont menées ces actions-là. Il y a eu le blocage d'Amazon qui a été fait à plusieurs reprises.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
L'aéroport, ouais.
Alors il y a une assemblée aussi qui a lieu au centre-ville de Toulouse, qui a été un peu l'initiative d'une action Elior pour le coup contre une grosse boîte qui en gros il y a eu une décision à Marseille de faire payer à des salariés, faire rembourser à des salariés des primes, etc. Du coup, il y avait 30 000 euros qui étaient réclamés par salariés. Donc il y a eu une action sur Elior, un blocage qui a été fait assez peu aussi, mais qui a super bien marché et qui a révélé un engouement un peu de tous ceux qui avaient été bloqués pendant cette action-là. Il y a eu une action sur les pôles emploi aussi qui a été décidée par l'Assemblée du centre-ville. Voilà, entre autres, mais il y a un peu plein d'actions qui ont lieu.
C'est très poisonnant.
Et par contre, de leader charismatique ou pas, moi je vois pas.
Franchement, c'est bien, non mais c'était une question. Hein.
Non, mais dès qu'il y a eu quelqu'un qui s'est un peu mis en avant, il s'est fait dégager par la base.
Super.
C'était, par exemple, il y a le cas de celui qui est mis en avant ici par les médias, la Cauchy des Gilets jaunes, comment il s'appelle, Libre.
Constructiste des Libres.
Ouais, ce type ne représente que lui, enfin, que lui-même et peut-être sa bande, mais voilà quoi. D'accord. Il n'existe plus.
Alors par contre, vous, peut-être qu'on peut quand même souligner cette initiative. D'abord, peut-être comment vous considérez dans le mouvement, et puis nous parler des initiatives que vous avez prises et des moyens que vous avez mis en avant pour tenter, peut-être pas d'organiser le mouvement, parce qu'il n'a pas forcément besoin d'être...
Ah non,
c'est pas ça du tout, mais en tout cas, essayer de le faire vivre et d'alimenter la confrontation, et de l'alimenter, quoi, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous parler des choses que vous avez proposées, que vous avez mis en place?
Bah, c'est
Tommy.
Oui, donc du coup, oui, comment on intervient dans ce mouvement? Bah, du coup, on a essayé pas mal de choses. Il y a plusieurs espaces. On essaie d'intervenir, de s'organiser. Bah, par exemple, assez rapidement, ça nous a paru important et nécessaire de que les gens continuent à se capter absolument tous les jours. Parce que par exemple, il y avait cette pratique au début, du coup, de bloquer via les ronds-points, qui était un lieu où les gens se rencontraient, s'organiser au quotidien et se trouver chaque jour, qui était un endroit où se retrouver. Du coup, il y a eu un moment aussi où ces ronds-points ont été débloqués par les Shtars, par la répression, et ça manquait un petit peu ces espaces. Et du coup, nous, en centre-ville, en sachant qu'on est quelques-uns, logiquement, habités dans le centre-ville de Toulouse, par exemple, on n'a pas de rond-point à proximité, et par exemple, on s'est dit que ça serait bien de faire un lieu comme ça, donc qui ne soit pas un lieu de blocage, mais un lieu où les gens se retrouvent chaque jour et puissent s'organiser. Donc c'est pour ça qu'on a fait un point info dans le centre, qui est un lieu où, grosso modo, une grosse heure chaque jour, où les gens passent pour faire un petit récapitulatif des rendez-vous, des événements, de ce qui s'est passé la veille, puis tout simplement se capter, se coordonner au quotidien. Ça c'est une chose sur laquelle on s'est pas mal appuyé.
Après, on a dès les premiers temps du mouvement, on a fait des appels à la grève partout où ça a été possible et soutenir partout où c'est. Donc c'est, des fois, ça tient plus de l'incantation que d'autres choses, mais en tout cas, ça semblait être la moindre des choses que de la placer, puisqu'on est on est quand même pas mal de gens qui sont sur des bases, on va dire, d'autonomie politique, pour faire court. Et puis il y a le journal.
Oui, alors ouais. Justement, parlez-nous un petit peu du journal jaune.
Oui. Non, Teresa, tu
voulais... Non, moi, je voulais juste rajouter que la fameuse assemblée du centre-ville, ouais. Dont on a déjà parlé, qui a été un peu impulsée à plusieurs reprises, mais en tout cas par le point info, etc. Voilà, mais on peut parler aussi.
Ah bah oui, il y a ce fameux journal d'agitation pour étendre et approfondir le mouvement. Pourquoi ça vous a semblé pertinent d'utiliser le papier alors que on dit que tout ce mouvement passe par les réseaux sociaux, et puis comment vous l'alimentez et quelle est sa réception?
Ouf, alors d'abord, c'est une demande qui ne vient pas que de Toulouse, ce journal. C'est venu de plusieurs groupes, alors particulièrement peut-être dans le sud de la France, mais et à un moment donné, il est apparu que...
La Bretagne aussi.
Oui, oui, y compris pas que le sud d'ailleurs. Donc il n'y a pas de problème, on n'est pas raciste. Et donc, il semblait évident que la forme papier, à partir du moment où ça pouvait être tiré dans un nombre d'exemplaires conséquents, bon, par exemple, là, celui-là, il a été tiré à 15 000, c'était le moment ou jamais d'approfondir, effectivement, ou de diffuser certains aspects de l'affaire. Là, pour le coup, le numéro 1, la rédaction a été essentiellement en charge de gens sur Toulouse. C'est pas que ça va tourner comme par exemple certains autres journaux qu'on connaît bien par chez vous, mais c'est que là, si numéro 2 il y a, et numéro 2 il devrait y avoir, ça devrait être beaucoup plus de textes, de contributions qui viennent d'ailleurs pour servir d'outils de liaison.
D'accord. Alors justement, est-ce que vous avez eu, vous avez participé ou vous allez participer au week-end prochain à l'Assemblée des Assemblées qui est organisée par les groupes Gilets jaunes, qui a déjà fait un premier appel dès novembre. Ils en ont fait un deuxième, donc il y a peu de temps, pour une Assemblée des Assemblées à Commercy.
Ouais.
Oui.
Alors, je ne sais pas.
Ouais. L'Assemblée Générale de dimanche, elle avait aussi pour vocation de désigner des représentants et des observateurs pour aller à Commercy. Alors, le problème, c'est que la demande de Commercy sur les représentants, elle est très stricte et il y a des conditions qui sont, on va dire, vraiment déterminées, quoi, hein, c'est-à-dire deux délégués qui viennent avec un mandat impératif et des observateurs, et un délégué, un homme et une femme, pour pouvoir représenter les assemblées et les gilets jaunes. Et malheureusement, l'assemblée de dimanche, elle a été un peu bordélique et un peu verrouillée, comme les camarades te l'ont expliqué. Et à ma connaissance, on est parti vers la fin, parce que c'était long, et il n'y avait pas eu de consensus, de décision.
Ok, ben d'après ce qu'on sait, mais on va justement après votre intervention, on va parler de Montreuil qui fait justement reprend cet appel de Commercy. Il y a pour l'instant au moins une cinquantaine de villes qui seront représentées à Commercy, au moins. Hein. C'était la semaine dernière, ça. Je sais pas où ça en est aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai lu le programme. C'est effectivement très très structuré. Et à mon avis, ils peuvent pas faire autrement, hein, parce que je veux dire. Bon, ça doit être difficile tout de même de faire des coordinations pour ceux qui ont été dans les mouvements étudiants des années 80-90. Eh bien, les coordinations étudiantes, c'était vraiment un bordel pas possible, où c'était un enjeu de pouvoir, etc. Là, ils veulent tout faire pour justement que ça ne le soit pas. Et là, chapeau s'ils arrivent à en sortir quelque chose.
Et puis, il y a une difficulté aussi de voir les objectifs de cette assemblée des assemblées, en tous les cas de cette initiative commerciale, puisque dans les discussions qu'on peut avoir avec les camarades toulousains, et c'est aussi notamment ce qui est défendu dans le journal, il y a une certaine méfiance par rapport à ce qui pourrait sortir d'une plateforme de revendication qui serait en fait un espèce de catalogue de revendications qui serait élaboré. Parce que ici, je pense que c'est intéressant de le remarquer, mais je vais leur laisser la parole, ils vont expliquer beaucoup mieux que moi.
Attends, parce que là, je crois que malheureusement, il va falloir qu'on se quitte.
Ouais, d'accord. Bon, alors attends, je conclue là-dessus. L'envie ici, le journal et l'intervention des camarades, c'est que le mouvement s'amplifie, continue la confrontation et ne se limite pas à des revendications pouvoir justement prendre tout ce qu'il y a à prendre, évidemment, mais ne pas tomber dans un piège revendicatif qui permettrait de stopper ce mouvement qui existe depuis 2 mois et qui, on l'espère, va continuer, quoi.
Ok, bah écoute, on vous remercie, c'était super.
Merci à vous.
Les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra. La tour à 100 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La tour à 100 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La tour à 100 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra. La tour à 100 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La tour à 100 ans qui prenne nos hommes, qui nous traite comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates on les pendra.
Les gilets jaunes de Montreuil ont entendu l'appel des assemblées populaires de Commercy à se retrouver dans une grande assemblée des assemblées. Une commune des communes, le 26 janvier prochain. Nous les remercions et leur répondons que nous serons présents. À Montreuil aussi, nous avons enfilé les gilets jaunes et nous nous sommes installés dans les jours en face du rond-point de Croix-de-Chavaux, comme partout en France. Ça nous a permis de nous rencontrer autour d'une soupe, de débattre autour d'un brasero, de tisser des solidarités, malgré les horizons différents et de parvenir à sortir de l'isolement. Cela nous a aussi permis de rappeler que les banlieues parisiennes, comme à Pantin, Saint-Denis, à Ivry, à Aulnay, ont bien rejoint le mouvement.
Le gilet jaune est le symbole d'une révolte. Il est bien trop tôt pour rentrer chez soi, il n'est pas trop tard pour en sortir. Nous sommes révoltés à cause de l'humiliation et du mépris, l'extrême richesse de certains, la soif de pouvoir des politiciens, le saccage de la planète par les plus riches et les violences de l'État sont allées trop loin.
Les mains arrachées, les manifestants éborgnés, la jeunesse alignée à genoux, les milliers d'inculpés et les centaines d'incarcérés sont venus s'ajouter à la répression policière quotidienne exercée à l'encontre des quartiers populaires depuis des années. Nous n'oublions aucune victime du maintien de l'ordre et nous affirmons notre solidarité aujourd'hui comme demain. On essaie comme toujours de séparer les bons gilets jaunes et les casseurs. 300 personnes qui s'affrontent avec la police pour défendre un rond-point, c'est de l'autodéfense populaire. Et 3000 personnes qui attaquent les banques ou les ministères, c'est le soulèvement d'un peuple en colère.
Pour obtenir ce que nous désirons, ne tombons pas dans le piège des médias et du pouvoir en définissant les limites de notre mouvement. Ni les miettes que nous propose le gouvernement, ni un débat national dirigé par lui-même, ni l'obtention du RIC n'arrêteront le magnifique moment qui est en train de s'ouvrir. Certains doutent et ont peur de l'incertitude de l'après. Nous répondons que dans la façon dont s'organise la révolte des Gilets jaunes, nous avons déjà beaucoup de pistes pour vivre dans des territoires désirables.
Face à la révolte, la plus vieille des techniques du pouvoir est de nous diviser. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Plutôt que le chacun pour soi, l'individualisme et la soif d'argent qui permettent le maintien de ce pouvoir, c'est la solidarité et le partage que nous avons à développer. Nous avons vu qu'ensemble, nous sommes bien plus forts. Nous savons bien que ceux qui privent les habitants de ce pays d'une vie digne ne sont ni les immigrés, ni les exilés, mais bien l'insolente richesse de certains, un système injuste.
Voilà pourquoi nous pensons que la différence ne doit pas constituer une frontière. Ni la couleur de peau, ni le lieu de naissance, ni le genre, ni l'orientation sexuelle, ni la religion ne serviront de prétexte pour nous diviser. Nous devons être unis dans nos différences si nous voulons bâtir un monde plus juste et plus beau. En Irak, Tunisie, Belgique, Kurdistan, Syrie, Japon, Hongrie, Espagne, Burkina Faso, Égypte, Angleterre, Maroc, Italie et bien d'autres endroits, des gens mettent des gilets jaunes pour montrer leur colère. Notre révolte n'a pas de frontières.
Nous ne laisserons plus personne, qu'il soit président, maire ou représentant, décider à notre place de nos conditions d'existence. L'organisation par rond-point, par quartier, par village, par commune nous permet de reprendre le contrôle de nos territoires et donc de nos vies. C'est cela qu'il nous faut continuer et viser si nous voulons que les choses changent vraiment.
À Montreuil, nous lançons un club gilet jaune à l'image de ce qui se faisait durant la Révolution française où l'on se rencontrait dans des clubs d'éducation populaire. Car se réapproprier le savoir permet de nous rendre moins manipulables et de faire émerger une intelligence collective au service d'actions concrètes pour améliorer notre quotidien. Nous appelons à la multiplication de ce genre de clubs sur tous les territoires.
Sans pour autant effacer la diversité et l'autonomie de nos organisations et initiatives locales, nous pensons qu'il est important de nous lier et de nous rencontrer pour renforcer le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour cela que nous serons présents à Commercy et que nous appelons depuis Montreuil à ce que les Gilets jaunes de partout participent à l'Assemblée des Assemblées.
C'est le début d'une révolution qui veut construire une société plus digne et plus juste, pour nous et nos enfants. Nous ne nous arrêterons pas même si cela doit prendre 100 ans. Pour que le peuple décide lui-même comment il doit vivre. Entendez cet appel. Continuons le début, prenons le chemin de la révolution.
Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. la 300 ans qu'on nous écrase. Assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, à Local, à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.